Qu'est-ce que le traumatisme ? En existe-t-il différentes sortes ? A-t-il une utilité ? Peut-on le traiter dès l'origine, des années plus tard ? En quoi nos yeux peuvent-ils nous aider ? Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Petit choc et grande cata, le traumatisme et ses traitements ». Vous écoutez le podcast Psyché à tête ouverte. Psyché, car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À tête ouverte, car nous le faisons avec l'esprit ouvert, au moyen des connaissances actuelles. Bref, Psyché, c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Pierre Oswald, en vous souhaitant le bonjour.
Bonjour Alban.
Alors dans cette nouvelle saison de Psyché, nous avons décidé de consacrer certains épisodes à des thématiques avec des invités. Pourriez-vous avoir la gentillesse de présenter notre invité du jour ?
Alors aujourd'hui, on a une grande chance pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est Véronique Sion qui nous accompagne. Alors Véronique Sion, je la laisserai en partie se présenter. Mais pour une deuxième raison, c'est qu'on va parler d'un sujet... que pas mal de psychiatres ont du mal à aborder parce qu'on ne leur a pas expliqué ça en long, en large et en travers, c'est le trauma. Et donc Véronique va nous en parler plus aujourd'hui. Alors Véronique, c'est une psychologue qui travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine et qui a eu pas mal d'expérience dans le domaine justement du trauma, à la fois du côté de ceux qui peut-être provoquent le trauma et d'un autre côté de ceux qui malheureusement en souffrent. Et donc on a accueilli Véronique dans notre hôpital, au centre hospitalier Jean Titeka. Véronique, je pense que j'ai été très très vite pour te présenter, mais est-ce que tu confirmes tout ce que je viens de raconter ?
Complètement. Donc moi, depuis effectivement plus de 25 ans, 26 ans maintenant, je baigne un petit peu dans le trauma, puisque j'ai travaillé beaucoup dans la maltraitance, depuis tant du côté des auteurs que des victimes, hein, comme vous l'avez dit. Et puis à partir d'un certain moment, j'ai eu vraiment besoin de m'orienter vers des prises en charge qui s'orientaient vers les solutions. Parce que on a beaucoup d'entretiens avec les patients qui sont assez lourds. Les gens racontent leur histoire avec des traumas, parfois dans l'enfance, très très lourds. On les laisse un peu ouverts après cet entretien. Les gens repartent et nous on se dit « Ah, c'était un super entretien, on a reçu plein de confidences et tout, c'était vraiment top comme rendez-vous ». Mais la personne, elle repart avec cet événement qui s'est réouvert pour lui. Et moi, ça ne m'allait plus. Ça m'allait vraiment plus de laisser les gens partir comme ça sans les avoir redéposés, stabilisés, ou en tout cas que le fait de m'avoir partagé ça pouvait leur être utile et leur servir. Et donc, je me suis orientée à ce moment-là vers une prise en soin qui s'appelle la thérapie EMDR, et là que je pratique depuis plusieurs années.
Ah, c'est là que je vais déjà vous interrompre, parce que vous êtes déjà partie. Que de contenu vous nous fournissez déjà, alors que je n'ai même pas encore pu poser ma petite question idiote. Avec laquelle je dois normalement commencer l'épisode. Alors, vous devez vous faire tatouer, bien en évidence, un mot. Quel mot serait-ce, Véronique ?
Lumière.
Pierre ?
Moi, je dirais oser, O-S-E-R.
Oser, ok. On est très dans la volonté, on est très dans aller de l'avant, c'est ça ?
Voilà, j'aime bien.
Ok, oser la lumière, alors si on rajoute des deux côtés.
Oui, sans doute. Puis ça doit être un choix aussi d'aller vers la lumière. Parce qu'on est souvent tiré vers le bas. Ça doit être un choix d'aller vers la lumière. Donc oser lumière, oui, c'est pas mal ça.
Ok, ben on les garde, on les garde. Okay. Donc il y a le salon de tatouage est en face du studio d'enregistrement. Vous direz que vous venez de ma part, vous aurez une promotion. Allez-y. Pierre, est-ce que vous vous essayeriez à une définition du traumatisme du point de vue du psychiatre ?
Alors, je ne vais peut-être pas me tenter une définition du traumatisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec Véronique, on a la spécialiste pour nous s'expliquer plus en détail ce qu'il y a derrière ce mot-là. Mais peut-être que je parlerai de l'expérience du psychiatre, qui d'abord n'a pas reçu beaucoup d'informations sur le trauma, mais qui a appris que le traumatisme, ça se trouve dans un certain nombre de troubles. On parle de PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, et on parle du syndrome de stress aigu. Ce sont deux entités, des troubles psychiatriques qui font référence au trauma. Et donc, le psychiatre que je suis, plus ou moins généraliste, la connaissance qu'il a du trauma, c'est que lorsqu'on vit quelque chose de compliqué, ça peut être une agression, une guerre, une expérience de mort imminente, hein, je prends à dessein des exemples un peu extrêmes, eh bien, on peut continuer de souffrir d'avoir vécu ces expériences qu'on appelle traumatisantes. Et donc, derrière ça, il y a à la fois le fait que, pour nous, je dirais un petit peu basiquement, historiquement, le traumatisme, c'est quelque chose de grave. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu et qui, d'une manière ou d'une autre, remonte à la surface au cours de l'histoire et qui provoque un certain nombre de symptômes, un certain nombre d'expériences désagréables, comme de l'anxiété, des cauchemars, des sensations, des reviviscences, donc comme si le traumatisme revenait, et qui impose à la personne d'éviter toute situation qui ressemble au traumatisme et qui peut créer parfois une vraie détresse. Donc, très simplement, le traumatisme, c'est ça. Ce que j'ai appris et ce que je sais de plus en plus, c'est que, évidemment, il ne faut pas avoir vu la mort en face pour que ce soit traumatisant. Et peut-être, c'est la question que je poserai à Véronique, c'est de peut-être nous donner quelques informations qui peut-être élargissent le spectre de ce que nous, on pense être le traumatisme quand on est psychiatre ou peut impliquer dans cette question-là qu'est le trauma de manière simple ou complexe.
Ça, donc, on a le psychiatre qui nous dit... En général, on parle de traumatisme face à des événements très très graves. On a le langage courant qui va plutôt dire très rapidement « j'étais traumatisé » ou « j'étais complètement trauma ». C'est ce que disent les jeunes. Et donc, comment se positionne la psychologue dans ce domaine ?
Alors effectivement, on a le mot « trauma » et « traumatisme » qui est utilisé de manière comme ça, constante, un petit peu n'importe comment, sans pour autant faire référence à des symptômes bien précis comme les symptômes que vous avez cité, Pierre, les symptômes du PTSD ou les symptômes du stress aigu qu'on retrouve dans le DSM-5. Alors, ce qui est important de garder en tête, effectivement, c'est que le trauma, c'est un choc, c'est une conséquence psychologique ou physiologique suite à un événement extérieur qui arrive. Et l'événement extérieur... On a toujours en tête, et les psychiatres souvent, parce que moi j'avais souvent des psychiatres qui m'envoyaient des patients, on a en tête que c'est un truc gravissime, un grave accident de voiture, une vraie attaque à main armée, etc. Mais on oublie que ce qui peut faire choc, trauma, c'est pas obligatoirement un énorme événement. C'est aussi la façon dont la personne va subjectivement vivre cet événement. Et moi, j'aime assez bien parler de la fenêtre de tolérance que beaucoup de thérapeutes EMDR pour un petit peu expliquer ce qui peut faire trauma, même si ce n'est pas un très, très grave événement. Donc, la fenêtre de tolérance, il faut imaginer que c'est ce qu'on est capable de supporter dans la vie de tous les jours. Et cette fenêtre de tolérance, elle est plus ou moins variable en fonction de notre état, en fonction de est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on a accumulé différentes choses, ou est-ce qu'au contraire, on a vécu beaucoup d'événements positifs ces derniers temps. Et donc, normalement, avec notre fenêtre de tolérance, on est capable d'encaisser un événement, de le considérer correctement. Mais parfois, l'événement est trop lourd, ou on n'est nous-mêmes pas en état, et on sort de notre fenêtre de tolérance. Et la sortie de fenêtre de tolérance, elle peut être soit vers le haut, soit vers le bas, comme on dit. Et la sortie vers le haut, ça va provoquer une mobilisation de tout notre intérieur vers la sauvegarde, vers la protection, vers la mobilisation, vers la fuite ou vers le combat. On appelle ça le fly ou le fight. Et donc là, on va avoir toute notre énergie qui va être consacrée à la protection et à la défense. Donc on va avoir notre cœur qui accélère, notre respiration qui s'accélère également, tout se concentre uniquement sur le danger qui nous arrive et tout va se mettre en branle pour qu'on puisse se sauver de cet événement dangereux.
Donc ça, c'est une situation de stress alors, c'est ça?
C'est une situation de stress.
Le stress en tant que tel.
Tout à fait, une situation de stress. Mais un stress qui n'est pas obligatoirement, objectivement, pour quelqu'un d'autre qui serait un stress. Je donne un exemple. On peut avoir une personne qui se retrouve avec quelqu'un qui lui met la main aux fesses, par exemple. Objectivement, on n'est pas dans une atteinte à la vie, on n'est pas roué de coups, etc. Et quelqu'un d'autre va dire, bon, c'est juste ça, c'est juste une main aux fesses. Mais la personne qui reçoit la main aux fesses, dans sa fenêtre de tolérance, c'est peut-être complètement en dehors de sa fenêtre de tolérance parce que ça vient lui rappeler des événements précédents, parce qu'elle est elle-même pas bien ou qu'elle se sent en état de vulnérabilité à ce moment-là. Elle n'avait pas prévu ce qui allait lui arriver. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive. Et donc, ça la met en dehors de sa fenêtre de tolérance. Et quand on est en dehors de la fenêtre de tolérance, on peut en avoir des séquelles. Donc, on a la sortie de fenêtre de tolérance par le haut, et puis on a la sortie de fenêtre de tolérance par le bas. Et par le bas, c'est quand on n'est pas arrivé à fuir, qu'on n'est pas arrivé à combattre. Là, notre intérieur, pour ne pas disjoncter, pour ne pas court-circuiter, pour ne pas mourir dans l'événement, il se déconnecte, il fuise, il fige. C'est un peu typique ce qu'on retrouve quand on a une voiture qui nous fonce dessus. On est en plein ce passage coûté, moi je suis très forte en fuise. J'ai une voiture qui me fonce dessus, je bloque, je reste complètement figée. Je ne sais pas me sauver, je ne sais pas courir, je ne sais rien faire d'autre que rester figée comme ça. Et là, on va se retrouver avec quelqu'un qui est complètement engourdi, qui ne sait plus trop parler, qui bafouille, qui n'est plus en connexion avec les autres. Les jambes se coupent, parfois même ça va jusqu'à tomber dans les pommes ou jusqu'à se dissocier. Et donc, je trouve que la fenêtre de tolérance, elle nous explique assez bien ce que ça peut être, un choc émotionnel qui peut faire trauma. Et ces conséquences qu'on retrouve, ces réactions qu'on retrouve, elles peuvent perdurer dans les jours qui suivent, mais elles peuvent aussi s'arrêter pendant un temps et ressortir éventuellement des années après.
Oui, ce qui est vraiment passionnant, c'est cette notion de variabilité, de cette taille de fenêtre, entre guillemets, pas forcément uniquement liée à la personne, mais aussi à l'état de la personne au moment de la survenance de l'événement potentiellement traumatique. Et donc, il faut bien se garder, j'ai envie de dire, en tant qu'être humain, de manière générale, de pouvoir juger ou jauger de ce qui peut véritablement provoquer un traumatisme chez les autres, si
Exactement,
je vous entends bien.
Exactement, parce que le jugement peut venir rajouter du trauma à la personne. Et donc, quand on travaille ensuite pour essayer d'être dans le soin de la personne, la première chose qu'on va faire, c'est de ramener la personne dans sa fenêtre de tolérance et puis d'essayer que cette fenêtre de tolérance arrête de se réduire. Parce qu'à force de recevoir des petits chocs qui peuvent faire trauma, la fenêtre de tolérance se réduit. Et donc, on doit d'abord commencer par remettre la personne dans sa fenêtre de tolérance et puis, à petit à petit, réaugmenter la fenêtre de tolérance. C'est pour ça que je parlais de lumière tout à l'heure dans le mot que vous aviez demandé que je me ferais tatouer, le mot lumière, parce qu'on a besoin de ça, notre intérieur a besoin de ça pour se restabiliser et reprendre une fenêtre de tolérance qui nous rend une certaine aisance dans la gestion de ce qui se passe.
On parlera tout à l'heure des prises en charge au moment même, quand c'est possible évidemment, et éventuellement beaucoup plus tard, et notamment de certains outils qui existent dans ce domaine-là. Et ce sera vraiment très chouette de vous entendre là-dessus aussi, Véronique. Est-ce qu'il existe plusieurs types de traumas ?
Alors oui, il existe plusieurs types de traumas. Le premier point qu'on va peut-être souligner, c'est qu'il y a le trauma simple et il y a le trauma complexe. Dans le trauma simple, on va se retrouver typiquement dans une situation d'une personne qui est bien en équilibre d'habitude, qui fonctionne OK, qui a des relations sociales qui lui conviennent bien, une situation familiale qui est apaisée, et donc qui est assez bien dans sa vie.
C'est qui ça ? Ça fait des exemples parce que moi, j'en ai pas beaucoup.
Mais c'est pas moi en tout cas.
On a dit qu'on ne citait pas de nom, c'est ce que vous m'avez dit, on ne cite pas de nom. Et là, on peut avoir à un moment un événement grave qui se passe. Donc, par exemple, j'ai eu une personne en soins qui fonctionnait bien, qui avait une dynamique familiale très, très chouette, qui était épanouie dans son couple, etc. Et puis, elle a eu un carjacking d'une violence assez importante et où elle a dû, en plus, protéger la personne qui était avec elle dans la voiture. Pour elle, on parle d'un trauma simple parce que cet événement a un début, a une fin, qu'elle était avec une stabilité suffisante. Et on sait qu'on va pouvoir traiter ce trauma-là. Et sans doute qu'après 3-4 séances sur ce trauma, eh bien, elle va retrouver un fonctionnement apaisé et elle sera de nouveau tout à fait de retour dans sa fenêtre de tolérance. Ça, c'est un trauma simple, un type 1.
Comme Donc l'événement est unique, début, une fin, bien définie, bien déterminée.
Voilà.
Trauma de type 1.
De type 1. Et puis, on a les traumas complexes qui sont de type 2 et 3. Les traumas complexes, c'est typiquement les situations, par exemple, quelqu'un qui fonctionnait assez bien, s'est développé dans une vie qui était une vie avec des aléas, mais avec un développement qui se passait assez bien. Et puis, elle a un peu enchaîné les dernières années des difficultés dans son lien avec son nouveau couple, avec des violences conjugales, puis avec un travail où il y a eu une forme de harcèlement et où ça perdure dans le temps, avec tout le temps l'impression que ça peut éventuellement revenir. Et où, finalement, ça finit par impacter le fonctionnement, la personnalité du sujet. Et ça, c'est un trauma complexe de type 2. Et donc, le type 3, par contre, c'est des personnes qui ont un vécu. Donc là, typiquement, les situations de maltraitance, hein, ou de négligence, ou de trouble de l'attachement, c'est des personnes qui ont vécu des traumas répétés, ou des rejets, ou des abandons répétés, sur un long temps, et où ces personnes étaient jeunes au moment où ça s'est passé. Et donc là, on a des traumas de type 3. Et évidemment, la prise en charge d'un trauma de type 1 ne va pas être la même que la prise en charge d'un trauma complexe, où la prise en charge aussi sera plus longue. Et moi, j'ai souvent des partenariats, du coup, avec un psychiatre extérieur, ou avec un kiné, ou avec un sophrologue, et où on a un partenariat pluridisciplinaire autour de la prise en soin du sujet.
C'est une question peut-être un peu trop vaste, mais est-ce qu'il peut arriver d'avoir une personne qui se présente devant vous avec un trauma de type 1 et en traitant, si je peux dire ça comme ça, ce trauma-là, vous vous rendez compte à ce moment-là, en creusant un peu, qu'il y a, que la cave est bien remplie d'une série de squelettes plus ou moins agréables à regarder. Ça arrive, ça ?
Alors, il n'y a pas besoin de creuser, Alban. En général, on le sent effectivement assez vite. Quelqu'un qui vient avec un trauma simple, avec un événement qui vient de se passer. Et donc, ça tient à mon travail, à moi, d'être très structurée dans la prise en charge que je propose au départ pour traiter le trauma simple et qui très souvent est récent. Donc, j'ai des protocoles exprès pour ça. Et souvent, le fait d'avoir une première expérience de soins qui fait du bien, ça amène la personne souvent à poser de nouvelles demandes. Et de venir avec de « Ah, mais en fait, quand on a désensibilisé ça, ben après ça, j'ai fait des cauchemars, j'ai repensé à ça, j'avais complètement oublié. Est-ce que ça veut dire que c'est encore actif ? Est-ce que ça veut dire que ça doit encore être pris en soin ou pas ?» Donc, ça arrive régulièrement.
D'autres événements sont remontés à la surface,
oui,
alors à ce
moment-là. Ça fait écho, parce que le trauma a cet effet-là. Hein. On a un événement qu'on vit, qu'on ressent. On ne le vit pas avec notre tête, on le vit avec nos sensations corporelles, nos émotions, nos pensées, nos croyances négatives aussi. Ce paquet complet de ressentis fait partie du trauma. Mais tous ces éléments-là sont contaminés et deviennent contaminants. Je vais donner un exemple parce que je me rends compte que c'est un peu fouillis, mais on imagine, vous et moi, on sort à la rue. Pour aller se faire tatouer, on traverse la rue Bardaf, il y a une voiture qui nous fonce dessus. Tous les deux, on vit le même événement. On a une voiture qui nous fonce dessus, en plus c'est une électrique, on n'entend pas le bruit et tout, bon, on ne la voit pas arriver. L'élément qui me marque le plus, c'est le visuel rouge de la voiture. Et puis le crissement des pneus. Vous, Alban, pas du tout ça. C'est pas le rouge, c'est pas le crissement des pneus, mais c'est par contre l'ambulancier qui dit « Fou, c'est pas joli, hein. » On n'est pas marqué par la même chose. On vit le même événement, mais l'information qui nous impacte, l'un et l'autre, n'est pas la même information. Mais ça veut dire que moi, par exemple, je pourrais très bien être en difficulté après avec les objets rouges qui bougent trop vite. Ou je pourrais être en difficulté dès que j'entends un crissement de pneus. Et puis, petit à petit, c'est peut-être plus le crissement de pneus, mais ça peut être juste un bruit de voiture. Et puis, petit à petit, je peux être en difficulté avec les voitures tout court et rentrer dans les voitures. Donc, vous voyez, cet élément perceptif, cet élément sensoriel qui est devenu contaminé, eh bien, il contamine d'autres événements qui ne devraient pas nous faire surréagir normalement.
C'est ce qu'on appelle les mémoires traumatiques, c'est ça que vous m'aviez expliqué en préparant l'émission.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les mémoires traumatiques. Donc, cette mémoire, tous ces éléments-là sont complètement figés dans notre cerveau et n'arrivent pas à s'auto-guérir tout seul. Parce qu'en principe, on est fabriqué pour dépasser tous ces événements-là naturellement.
Mais parfois... On tourne la page, quoi. Le but, c'est finalement, on est construit pour tourner la page et se dire, bon voilà, on a vécu quelque chose, on a survécu et autant passer... à autre chose.
Oui.
C'est comme ça qu'on...
Et on n'a même pas besoin de se le dire. Ça oui. vient tout seul. Ce travail se fait tout seul. Nous sommes allés nous faire tatouer, hein, Pierre, là en face. Et puis, bon, on a quand même eu des moments difficiles avec le tatouage. Mais dans 3 semaines, sauf si on nous le rappelle, on ne va pas revenir dans les petits détails. Parce que naturellement, notre cerveau aura fait le travail d'apaisement de ce souvenir-là. Donc, on n'a pas besoin d'y penser. Ça se fait tout seul, en principe. Mais parfois, il y a des événements qui ne s'apaisent pas tout seuls et ils ressurgissent à l'occasion d'un nouveau traumatisme, par exemple. Donc, typiquement, quelqu'un qui viendrait pour un trauma simple pourrait voir d'autres traumas qui sont réactivés et qui reviennent à la surface et qui demandent à être traités.
Ce qui va surtout être compliqué pour Pierre, c'est quand il va se rendre compte que le tatoueur a écrit « José » sur son front.
Pas osé.
Pas osé. Pierre voulait intervenir, je vois qu'il trépigne. Là.
Non, je trépigne peut-être parce que vous connaissez un petit peu les remarques qu'on pourrait faire face à ce type de discours, c'est de dire vous voyez des traumatismes partout. Dans cet aspect-là des choses, c'est vraiment à l'image de l'évolution aussi du rapport entre un soignant et une personne soignée, où ce n'est pas le soignant qui est le sachant, qui sait mieux que les autres et qui peut définir ce qu'est un traumatisme et ce qu'il n'est pas, c'est qu'il est vraiment la... pas la fenêtre ouverte, mais la porte ouverte à la personne soignée pour qu'elle puisse elle-même élaborer autour de ça. Par rapport à cette critique, hein, je me fais un peu l'avocat du diable de voir des traumatismes partout. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Alors, la première chose que j'ai envie de répondre, effectivement, c'est que le travail autour du trauma, la position de savoir, hein, le thérapeute qui sait, qui est au-dessus, hein, qui détient un peu la science infuse, c'est pas aidant. Ça, c'est sûr. Ça doit être un vrai travail de collaboration entre deux expertises différentes. On a le soignant qui est expert de sa pratique, de son décodage ou des outils qu'il va utiliser. Et puis, on a le soigné qui, lui, est expert de ce que ça lui fait à l'intérieur de lui, de est-ce qu'il sent que ça, c'est un élément dont on doit tenir compte ou pas tenir compte. Il est expert de est-ce que ça l'aide ou est-ce que ça ne l'aide pas. Et donc, ça doit être un vrai travail de collaboration. Alors, est-ce que tout devient trauma? Alors, c'est un peu un danger hein, de pathologiser quelque chose qui ne devrait pas l'être, pas toujours l'être. Si on prend en compte que nous sommes fabriqués pour naturellement guérir, et que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement, ce qu'on doit du coup garder en tête en tant que soigneur, c'est de se dire qu'on ne doit pas obligatoirement offrir une prise en charge psychologique ou thérapeutique pour tous les événements qui se déroulent. Ça, je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Alors, je suis désolée, j'avance déjà un petit peu, mais au niveau du CAJT, ce qu'on a envie de mettre en place, c'est beaucoup plus un soutien collégial de pairs pour se soutenir dans les jours qui suivent un événement potentiellement traumatogène. Et on n'a pas besoin de psy pour se faire ce travail-là. Et ce support de la part des collègues est un des critères les plus positifs, parce qu'on sait que le soutien social et familial est extrêmement important pour aider la personne à revenir dans sa fenêtre de tolérance et à dépasser l'événement traumatique. Donc on sait que ce soutien des collègues peut perdurer pendant quelques jours, voire semaines, et éventuellement que le collègue support peut alors dire, écoute, là je sens que je suis un peu dépassée par ce que je peux t'offrir, je vais demander au psychologue du personnel ou à la psychologue du personnel s'il peut te recevoir parce que là je suis moi un peu coincée.
Donc c'est un petit peu sortir de ce tunnel où trauma égale soin, c'est d'élargir les choses pour dire que des événements potentiellement traumatisants doivent d'abord faire l'objet d'une attention par les pairs et puis éventuellement par un psy. Et puis alors, il y a aussi l'autre aspect ou l'autre chemin qui est que lorsque une personne a un vécu un peu douloureux avec des attitudes de fuite ou de l'anxiété ou des éléments pseudo-dépressifs et qui va voir un psy qui petit à petit chemine vers une hypothèse traumatique. Là aussi, est-ce qu'on peut valider ce type de démarche qui est qu'à partir de symptômes potentiellement lié à un trauma, on puisse faire ce chemin avec un psy de partir à la recherche du trauma qui peut être le trauma un petit peu à l'origine des difficultés que vit la personne.
Oui. Et souvent, un reproche qui est fait au psy, d'ailleurs, c'est de dire, oui, mais il va venir creuser dans ta tête, aller déterrer des choses, alors qu'en fait, tu allais bien, et là, maintenant, ça ne va plus du tout, parce qu'il est allé déterrer des choses qui étaient bien, bien enterrées, bien profondes.
Mais c'est comique, parce qu'on revient à ce qu'on a discuté un petit peu au début, qui est, moi, la raison pour laquelle je me suis tournée vers le MDR, et où il y avait quand même beaucoup le plaisir du psy d'aller creuser dans l'histoire, et d'aller trouver des pistes, des compréhensions, faire des liens, des associations, etc. C'est très jouissant. Pour le psy, je ne suis pas sûre que ce soit toujours très utile pour le patient. Ce qui m'intéresse, quand on a quelqu'un qui arrive avec une série de symptômes ou de mal-être ou d'attitudes difficiles, c'est que, alors là, de nouveau, je viens avec ma casquette de MDR, ce sont pour moi des situations qui sont ce qu'on appelle des déclencheurs. Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, systématiquement, dans cette situation-là, je n'arrive pas à fonctionner autrement que comme ça. Ou, de manière générale, j'ai du mal à rentrer en relation avec tel type de personne, par exemple. Et donc ça, ce sont les déclencheurs. Et ces déclencheurs, ben, on sait que la personne, c'est sa demande à elle, c'est « j'aimerais bien ne plus fonctionner comme ça ». Parler en public, ou exprimer mes émotions, ou exprimer mes sentiments, etc. J'aimerais bien que ces blocages-là, je ne les ai plus. Et donc, en EMDR, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là, pour essayer de comprendre à quel moment est-ce que le problème s'est créé. Et on ne va pas chercher obligatoirement des grands traumas. On va juste se concentrer sur toutes les informations que le déclencheur nous amène, les sensations, les croyances négatives, les émotions, les croyances qu'on a ou les pensées qu'on a au moment de ces déclencheurs. Et avec ça, on va retourner en arrière pour voir qu'est-ce que notre expert soigné trouve comme événements qui lui parlent et qui sont en lien. Et donc là, on appelle ça des cibles, c'est-à-dire les événements du passé qui ont créé et maintenu ce problème. Et donc, oui, ça arrive, on peut avoir quelqu'un qui vient avec une série de symptômes, mais est-ce qu'on doit chercher les traumas ? Ben, c'est sûr que quand on est thérapeute EMDR, la personne vient avec une série de symptômes, et ça nous amène souvent à trouver une série d'événements mal digérés ou mal vécus. Qu'on va pas, je vais peut-être pas moi les appeler traumas parce que l'image publique est trop quelque chose de gravissime. Mais un exemple, on peut avoir quelqu'un qui est très en difficulté dès qu'on est avec un groupe de plus de 3 personnes. La personne perd les pédales, elle sent son corps qui se liquéfie, les jambes qui tremblotent, elle a les mains moites, elle perd ses moyens de manière systématique, alors que rationnellement, elle sait qu'elle n'est pas en danger, qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Et quand on étudie ce déclencheur d'un peu plus près, on remonte en arrière et on trouve à ce moment-là qu'il y a, par exemple, des événements d'un exposé qui s'est mal passé, où le professeur n'a pas été content, ou d'un dessin d'un arbre avec le tronc qui est vert, et puis on est jugé parce qu'on a mis un tronc vert, par exemple.
Vous connaissez des gens qui dessinent des troncs verts ?
Je connais un deux ou trois daltoniens qui font ça, mais...
Balles perdues envers les deux daltoniens avec qui vous interagissez aujourd'hui, Véronique, franchement, c'est touché. Petit.
C'est moche, c'est moche. Peut-être que je réactive des traumas en plus en faisant ça.
Évidemment, évidemment. Bon, ça fait plusieurs fois que vous parlez de MDR, je précise tout de suite pour les auditeuristes qu'on va y venir. Mais peut-être encore une petite question. Oui. Pierre nous parle souvent finalement de l'utilité d'une série de souffrances, de difficultés, que si ça existe, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Tout ce qui est en lien justement avec les traumatismes, toutes ces réminiscences, toutes ces difficultés, est-ce qu'elles ont une utilité finalement ? À quoi est-ce qu'elles servent ?
Alors, je ne sais pas si elles ont une utilité. En tout cas, il y a moyen d'en faire parfois quelque chose d'utile et que ça amène à des remises en question ou à des réflexions ou des remaniements de notre dynamique intérieure, de notre manière d'être en relation avec les autres, de notre spiritualité. Ça nous amène dans cette phase de digestion, dans cette phase d'assimilation, ça peut vraiment nous amener à aller vers une croissance, vers une dynamique plus positive ou plus incarnée presque, j'allais dire. La personne qui trouve plus son assise, elle se retrouve plus et mieux au niveau relationnel aussi avec les autres. Le docteur Cyril Benmamou, elle a une très chouette chaîne YouTube, le docteur Cyril Benmamou, et elle parle notamment de ça. Et elle, relève donc les quatre croissances qu'on retrouve de manière générale, hein, donc la croissance personnelle, la croissance relationnelle et la croissance spirituelle. Et elle rajoute aussi la croissance environnementale. Et donc, c'est des réajustements. C'est comme s'il y a un avant et un après, et que le fait d'être passé par quelque chose de lourd peut nous réobliger à nous réajuster finalement, à refaire des choix, à resélectionner et à sans doute à être plus incarné. Ça va au-delà de la résilience. C'est pas simplement retrouver une stabilité qu'on avait avant, c'est au-delà de ça. Hein, c'est vraiment un remaniement personnel. On se réajuste mieux, je pense, autrement et sans doute plus finement. On fait des choix aussi différents, je crois.
Pierre, vous qui aviez un poster de Darwin dans votre chambre quand vous étiez adolescent, est-ce que vous, vous allez dans le même sens que Véronique ?
Ah oui, bah oui, évidemment. Enfin, c'est la question de la crise aussi, la crise qui est à la fois quelque chose qui peut stupéfier, qui peut impressionner, mais qui est toujours ou souvent un facteur de changement et de modification. Et là, la place du psy, je dirais de manière générale, dans ces aspects positifs, est-ce qu'on est sûr que les psys prennent en compte quand même ces aspects positifs du trauma pour éviter de les stigmatiser comme étant à chaque fois une source de malheur?
Je pense que la place du psy est d'accompagner son patient, de marcher à côté de lui, ni devant ni derrière. Le psy qui accompagne dans le trauma, il n'a pas à dire « là, plus tard, ce sera comme ça et ce sera mieux à ce moment-là », ni à dire « oh ben oui, avant, dans le passé, c'était ». La collaboration entre le soignant et le soigné, c'est beaucoup plus de marcher l'un à côté de l'autre, d'accompagner l'autre dans sa réflexion. Et si sa réflexion va du côté d'une remise en question de ses choix et de ses valeurs, c'est de l'accompagner au plus finement pour que la personne pose bien ses choix en pleine conscience, je vais dire. Pas de lui dire « ça ira mieux après » ou « vous allez en tirer du positif ». Là, on ne rejoint pas le patient dans là où il est. Le patient, là où il est, c'est certainement pas qu'on lui dise que ben, ça va passer, ça ira mieux. Non, si là, il le vit dramatiquement, il le vit dramatiquement. Et on a à reconnaître que pour lui, là, maintenant, c'est comme ça.
Allez, Véronique, vous l'avez déjà placé plusieurs fois. EMDR. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est
alors,
en anglais.
C'est en anglais, oui. Donc, du coup, je vais le dire en français, évidemment, parce que je ne vais pas le lire en anglais. Donc, il s'agit de la désensibilisation et le retraitement par le mouvement des yeux. Mmh. Et c'est bien une thérapie, ce n'est pas une technique. Moi, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce que les gens pensent qu'il suffit juste d'agiter les yeux et puis ça marche. Pas tout à fait, c'est bien une thérapie qui a été découverte de manière tout à fait fortuite par Francine Shapiro, qui avait vécu des événements de vie difficiles. De manière tout à fait fortuite, elle se baladait dans le parc, tout en ruminant, en pensant à ses difficultés. Et quand elle est revenue de sa balade, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était beaucoup plus confortable, elle était plus à l'aise, elle était plus détendue. Et elle s'est demandé ce qu'elle avait fait. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait fait des mouvements des yeux. Et du coup, elle a demandé, elle avait des étudiants avec elle, elle a demandé aux étudiants de faire un peu le même genre d'exercice, tout en pensant à quelque chose de très tracas, très troublant pour eux, très difficile. Et les étudiants lui ont renvoyé la même chose. Ils ont renvoyé que pour eux aussi, ça apaisait complètement leur charge émotionnelle négative. Elle a travaillé là-dessus, elle a protocolé petit à petit cette démarche. Et puis, ils ont proposé cette démarche d'aide autour du trauma à une catégorie qui était très difficile à prendre en soin à l'époque, qui étaient les vétérans du Vietnam. Mmh. Hein, je pense que la prochaine fois, vous allez bientôt avoir un psyché sur les hallucinations.
Tout à fait.
Les vétérans du Vietnam, typiques, avaient des gros problèmes d'hallucinations et étaient peu pris en charge.
Excellent teasing, merci.
Mais je vous en prie. Et
faudra revenir.
Ils ont fait une recherche à ce moment-là en le proposant aux vétérans du Vietnam et ils se sont rendus compte qu'on avait des vrais changements très significatifs pour ces personnes, avec vraiment une diminution des symptômes très, très importante. Et donc, cette dame qui était par ailleurs du côté de la recherche, hein, travaillait en université aussi, elle travaillait à Palo Alto, elle a mis beaucoup de recherches en route. Et donc, c'est une des thérapies qui est la plus étudiée, en fait, parce que c'est un petit côté magique, mais ça l'est pas du tout.
Concrètement, on s'installe, je sais pas moi, devant le thérapeute, la thérapeute, et il nous invite, alors il, elle, nous invite à faire des mouvements des yeux. Et comment ça se passe ?
Alors, il y a d'abord un postulat qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'on en a déjà parlé, Francine Shapiro a bien dit qu'il y a ce qu'on appelle le processus Thaï. c'est le traitement adaptatif de l'information. Et l'information, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est toutes les sensations, les émotions, le visuel, les croyances, les pensées, etc. Tout ça, ce sont des informations. Naturellement, notre cerveau va traiter toutes ces informations-là. Ce qu'on s'est rendu compte avec ces mouvements des yeux, alors on ne sait pas bien pourquoi ça fonctionne, mais on sait, grâce aux IRM et aux images, on sait que ça fonctionne. Le cerveau d'une personne qui pense à un traumatisme avant une séance n'est pas le même que la personne après une séance. On voit que les zones du cerveau qui sont allumées ne sont pas les mêmes. En fait, ce qu'on va faire, quand il y a une personne qui vient chez nous pour travailler sur un traumatisme et que c'est l'EMDR qui va être utilisé, on va d'abord voir avec cette personne quels sont les événements dans la vie qui déclenchent l'individu. On va repérer les cibles du passé. On va aussi se projeter dans le futur. C'est en ça que c'est une thérapie. Il faut d'abord bien comprendre comment est-ce qu'il va agir et dans quel rythme et dans quelle succession il va agir pour pouvoir traiter le traumatisme de la personne qu'il consulte. Quand la personne est en face de nous et qu'on a repéré que, par exemple, effectivement, le fait d'avoir eu un exposé qui s'est mal passé, ça a vraiment mis en choc, eh bien, on va retourner dans cet événement-là. Mais cette fois-ci, on dit bien, avec un pied dans le passé et un pied dans le présent. Donc, il ne s'agit pas de retourner les deux pieds dans le passé et les deux pieds dans le trauma. Mais il s'agit d'y retourner suffisamment pour réavoir toutes les informations qui sont en lien avec le trauma et permettre au cerveau de revisiter cet événement grâce aux mouvements bilatéraux. Donc Francine Shapiro insistait beaucoup, parce que Madame Shapiro malheureusement est décédée, mais elle insistait beaucoup pour que ce soit des mouvements bilatéraux au niveau des yeux, en mettant en évidence que ça fonctionnait mieux avec les mouvements des yeux. Mais on a d'autres mouvements bilatéraux, comme les tapotements sur les genoux, là, comme je suis en train de les faire maintenant, à ce rythme-là.
On le voit bien, là, on le voit bien à travers le micro.
À cette vitesse-là. on a aussi le câlin du papillon. Donc si vous tapez sur Internet câlin du papillon, ben, vous avez pareil.
Véronique croise les bras, voilà, et elle tapote sur chacune de ses épaules, mais de façon inversée. Voilà. Main gauche sur l'épaule droite et main droite.
Et qu'on utilise beaucoup avec les enfants.
Okay. Donc, le câlin du papillon.
Le câlin du papillon, on utilise beaucoup avec les enfants, dans des protocoles de groupe notamment. Et en fait, le fait de faire des stimulations bilatérales relance le traitement adaptatif de l'information. Ça veut dire qu'on a la personne qui repasse par le trauma avec toutes ses composantes. Donc avec les sensations physiques, les émotions, avec le visuel. Et le travail taille se remet en route. Alors moi, je dis souvent aux gens, n'attendez pas d'avoir quelque chose. Ne vous dites pas, merde, qu'est-ce que je dois dire à Véronique quand on s'arrête avec les stimulations bilatérales. On prend ce qui vient. Parce que finalement, c'est notre cerveau animal qui décide du chemin. C'est pas notre cerveau cortiqué. C'est notre cerveau des émotions, c'est notre cerveau de l'urgence, c'est notre cerveau du danger qui prend la main à ce moment-là et qui, lui, sait le chemin qu'il doit faire pour pouvoir guérir. Et donc, on va faire ces stimulations bilatérales jusqu'à ce que la personne se sente confortable avec le souvenir qu'on a revisité. Alors, confortable, ça ne veut pas dire que ce souvenir va devenir un bon souvenir,
oui, c'est
évidemment.
Ça.
C'est juste que quand on y repense, on ne sera plus dans des sensations physiques trop lourdes à vivre, ou on ne sera plus dans des émotions trop fortes ou des manifestations corporelles trop fortes. Ça deviendra un souvenir simple comme un autre.
Et ça peut prendre 2, 3, 4 séances.
Alors, les événements qui viennent d'arriver, donc quand on a un événement qui est récent, donc il y a des protocoles exprès pour ça. Donc, on a des protocoles d'événements récents en individuel et des protocoles d'événements récents en groupe. Quand on utilise un protocole d'événements récents, en général, en 2 séances, l'événement est apaisé. Si on travaille sur une cible du passé, et surtout si on a plusieurs cibles à travailler, on va essayer de travailler d'abord avec la plus ancienne. Quand on travaille avec la cible du passé, ça peut prendre 2-3 séances sur une même cible. Et quand une cible est travaillée, est nettoyée, est apaisée, eh bien en fait la cible suivante, naturellement, se met au nettoyage aussi. Et donc on peut avoir comme ça 5-6 cibles qu'on a repérées, et au départ elles sont très très chargées émotionnellement, très chargée au niveau sensations corporelles. Allez, on a une cible de 6 ans, par exemple, quand on a 6 ans, et la suivante est à 9 ans. Eh bien, quand on a nettoyé celle de 6 ans, et qu'on se dit, ben, on va faire celle de 9 ans maintenant, ah ben, finalement, elle est déjà beaucoup plus apaisée, parce que le processus taille a continué son chemin.
Ça nous fait une bonne petite transition, Véronique. Vous l'avez dit, vous travaillez dans un centre hospitalier psychiatrique en tant que psychologue, avec notamment cet outil qui visiblement a fait ses preuves, qui est le MDR.
Oui.
Vous nous en dire un petit peu plus.
Oui, alors quand il y a eu la possibilité d'être psychologue pour les soignants, ça a été tout à fait une évidence pour moi, parce que j'ai travaillé beaucoup dans un hôpital, déjà avant ça, où je voyais bien comment les soignants pouvaient être très bousculés, très malmenés, très stressés par le rythme simplement aussi, hein, pas uniquement par les patients, même par le rythme aussi.
Par le directeur aussi.
Oui, ça c'est une évidence.
Pas du tout de quoi vous parlez.
Et puis après ça, quand j'avais ma consultation privée, j'ai eu pas mal de pompiers, d'ambulanciers, d'infirmiers, de policiers en soins. Et donc quand il y a eu cette possibilité d'être psychologue pour prendre en soin les soignants, pour moi c'était vraiment une évidence que, en fait, quand on travaille dans la souffrance humaine, ou quand on travaille avec des gens qui sont pas bien, qui souffrent, qui vivent des choses difficiles, qui ont une histoire difficile, pour moi c'est une évidence qu'on doit être épaulé. On devrait avoir des psychologues pour le personnel, en fait, dans tous les domaines où on a du soin et dans tous les domaines où on côtoie la souffrance. On n'a pas l'occasion d'en parler cette fois-ci. Peut-être vous devrez penser à ça, à faire un psyché sur le traumatisme vicariant, sur la fatigue compassionnelle, par exemple. Mais c'est une évidence que si on ne prend pas soin de notre outil principal, qui est nous-mêmes et notre propre équilibre, on s'use. Et donc, j'aimerais bien leur offrir cette formation pour que, petit à petit, on ait vraiment des équipes de soins qui prennent l'habitude de s'épauler les uns et les autres, et d'être aussi plus attentif et plus compréhensif à ce que c'est que le trauma, ce que c'est que la fatigue, comment ça se manifeste, comment est-ce que je peux répondre à un besoin de mon collègue quand il est en difficulté ou quand il vient de vivre un choc, par exemple.
Oui, donc ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'importance que les pairs, PIRS, les collègues puissent déjà faire preuve de certains gestes pour aider, pour ne pas aggraver aussi.
Oui.
En cas d'événements traumatisants, type agression, incendie, qui sont des choses qu'on connaît dans l'hôpital.
Parce que naturellement, c'est quelque chose qu'on va faire. Donc si quelqu'un se fait agresser, naturellement, on va essayer de relativiser les choses. On va lui dire, mais c'est pas si grave, ça aurait pu être pire.
Tu as eu de la chance.
Tu as eu de la chance, etc. Et ça, ça fait des dégâts. Mais on s'en rend pas compte. Ça part tout à fait d'une bonne volonté. Hein. Ça part vraiment de « je vais rassurer mon collègue, lui dire que ça va aller ». Mais en fait, ça n'aide pas vraiment. Au contraire, ça peut avoir des effets négatifs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mieux nous outiller les uns les autres pour mieux savoir quoi faire quand il se passe un événement potentiellement traumatogène.
Et un autre élément sur lequel vous avez éveiller nos consciences, c'est notamment aussi la notion de devoir répéter encore et encore et encore le récit d'un événement, que ce soit aux collègues, aux supérieurs hiérarchiques, à la direction, à la médecine du travail, à son médecin de famille, à sa famille, à ses proches. Et là aussi d'essayer, tant que c'est possible, de réduire peut-être un récit que vous appelleriez de vos voeux, qui serait le récit unique, pour éviter justement que cette répétition ne vienne aggraver, installer le traumatisme.
Oui. C'est effectivement parti de ce postulat-là. D'abord qu'il y avait beaucoup trop de répétitions et surtout que les écoutes étaient elles-mêmes parfois violentes. Ce n'étaient pas des écoutes non suggestives, ce n'étaient pas des écoutes qui aident à l'expression de la parole, mais souvent ce sont des écoutes avec jugement ou qui oriente. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment bien qu'il puisse être mis en place, parce que malheureusement, on n'a pas le choix. L'OMS dit bien que face à quelqu'un qui est en choc traumatique, on ne le fait pas parler. On ne lui demande pas de raconter ce qui s'est passé. Malheureusement, pour la continuité des soins et pour le soignant lui-même, on n'a pas le choix. On est obligé un peu de savoir ce qui s'est passé. Et donc, mon idée, ce serait vraiment qu'on ait des collègues qui sont bien outillés pour pouvoir écouter le plus complètement possible et de la manière la plus non suggestive possible ce que la personne a vécu. de manière chronologique, sans jugement et en étant juste soutenant de la parole. Et que cette audition, hein, ça s'apparente un peu à une audition, mais l'idée, c'est que cette audition, ensuite, appartiendrait à la personne et qu'elle puisse le communiquer à son médecin traitant, au médecin de l'assurance, qu'elle puisse le communiquer au psychiatre du patient, à l'équipe soignante qui doit continuer à travailler et qui va peut-être, elle, débriefer pendant la réunion pour savoir quoi mettre en place, etc. Mais surtout d'éviter les répétitions traumatiques et parfois, malheureusement, jugeantes ou maladroites. Moi, j'avais fait le compte, parfois, ça allait jusqu'à 13 fois où il fallait répéter ce qui nous était arrivé. Et donc, notre mémoire se transforme aussi. Hein, les événements, les éléments se rajoutent et parfois nous traumatisent plus.
Vous me disiez également que c'était des évolutions qu'on voyait dans d'autres domaines, singulièrement dans le domaine de la justice. Et je pense qu'on peut s'en réjouir et souligner tout le travail qui est fait dans ce domaine-là. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Comme il est tradition dans Psyché, Pierre et Véronique, auriez-vous des ouvrages ou des créations artistiques à conseiller à nos auditorices qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour ? On commence par qui ? Par Pierre.
Ah, mais moi, j'ai eu l'occasion de terminer il y a quelques jours un livre extraordinaire que je pense ne pas être le seul à avoir lu. Pour le coup, je vais citer un ouvrage qui est connu, je pense, par la plupart de ceux qui nous écoutent. Il s'appelle « Triste tigre » de Neige Sino, qui raconte, expose le traumatisme, pour le coup, de type 3, hein, qu'elle a vécu puisqu'elle a été malheureusement maltraitée et violée par son beau-père pendant plusieurs années. Et elle nous raconte le procès qui en a suivi et tout ce qu'elle vit de manière vraiment très brute, sans être passée, entre guillemets, par les filtres d'un psy, et qui fait un exposé brillantissime, passionnant et très touchant des conséquences de ce traumatisme au long cours. C'est passionnant à lire, c'est très touchant et donc je ne peux que le conseiller.
Merci, Véronique.
Alors moi, j'ai eu très difficile, évidemment, à choisir. Mais du coup, je pense au livre qui s'appelle « Dessiner encore ». C'est une BD qui est écrite par Coco, aux éditions Arène. C'est une BD d'une personne qui faisait partie de Charlie Hebdo.
Ah oui.
Au moment de... Voilà. Et je trouve que sa description qu'elle fait de la violence, de ce qu'on peut ressentir quand on est en trauma... J'allais dire, est vraiment chouette, mais non, évidemment, c'est pas gai de lire que quelqu'un a été bousculé comme ça, mais ça rend très bien, c'est agréable à lire, enseignant, je pense. Et alors un deuxième qui est aussi une BD, qui s'appelle « Merci mon fils, vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR », qui est écrite par Zoélie et dessinée par Zoélie. Et alors un troisième, je vais quand même me permettre, vous avez les livres bande dessinée de Art Mella, sur les émotions. Il y a plusieurs livres et le troisième est absolument magnifique. Et c'est quelqu'un qui est formé à l'IFS, donc c'est peut-être aussi un sujet qui sera intéressant pour vous plus tard pour d'autres psychés. Mais c'est à lire, on s'y retrouve et il y a pas mal de choses qu'on comprend sur notre fonctionnement quand on lit cette BD.
Merci à tous les deux. Je signale aux auditoristes qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, et suite au teasing que Véronique a déjà fait, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode ?
Alors le voile a déjà été quelque peu levé, mais je vais m'enfoncer dans ce voile et en effet vous dire que la prochaine fois, on parlera d'hallucinations sous toutes ses formes, à la fois comme... marque de certains troubles psychiatriques, mais aussi comme révélateur et peut-être outil du rétablissement et du mieux-être de la personne.
Je trépigne, le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
Chères auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thèmes à l'adresse info@psyché.be.